L'heure est déjà bien avancée, mais je vous invite à tourner avec moi sans plus tarder. En Éphésiens chapitre 6, nous reprenons le thème du combat du croyant. Et nous allons lire le texte de référence que nous avons l'habitude de regarder ensemble. Et on va faire une petite parenthèse ce matin, peut-être un autre dimanche concernant le sujet, vous allez voir qu'on va développer ce matin. Il n'est pas directement dans le texte, mais suite à l'étude de ce texte, j'ai été amené à réfléchir sur notre combat et j'aimerais vous donner cette autre facette de ce combat. Mais nous allons lire à partir du verset 10 au chapitre 6. Il est écrit au reste, « Fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde, de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme, ayez à vos reins la ceinture pour la vérité pour ceinture, revêtez la cuirasse de la justice, mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix, prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Faites en tout temps, par l'esprit, toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Priez pour moi afin qu'il me soit donné quand j'ouvre la bouche de faire connaître hardiment et librement le mystère de l'évangile pour lequel je suis ambassadeur dans les chaînes et que j'en parle avec assurance comme je dois en parler. Prions. Seigneur notre Dieu, nous te remercions ce matin de ta présence et nous nous confions en toi. Dans notre grande faiblesse, tu nous as rappelé et tu nous rappelles encore que sans toi nous ne pouvons rien faire et notamment pour faire face à l'ennemi. Merci de ta grâce dans nos vies, merci de ta présence, merci de ce que, même si nous sommes appelés à combattre l'ennemi, que nous sommes placés dans ce combat malgré nous-mêmes, tu es avec nous et tu nous donnes toutes les ressources nécessaires pour être vainqueurs. Merci de ce que tu as fait de nous des vainqueurs en toi, en Jésus, qui a tout accompli à la croix et nous te rendons grâce, Père éternel, par le beau nom de ton Fils bien-aimé. Amen. Nous avons vu, et nous sommes dans l'Épître aux Éphésiens depuis le début, ce que nous avons en Christ. Nous avons regardé dans les trois premiers chapitres notre position en Christ. Et maintenant, nous sommes arrivés après au chapitre 4 de regarder notre condition en Christ. Et on aimerait que cet Épître s'arrête un petit peu avec des choses pratiques comme la relation mari-femme, la relation parent-enfant, enfant-parent, patron-serviteur, serviteur-patron. Mais en fait, Paul, inspiré par Dieu, le Saint-Esprit, nous mentionne que le croyant est appelé à combattre. Et pour combattre, il a besoin de se fortifier. Et on a vu dans le combat du croyant qu'il a une ressource, la puissance de Dieu, et qu'il est appelé à se fortifier. On a regardé ensemble l'ennemi du combattant. On n'aime pas trop parler du diable et de Satan, mais on a regardé ses origines, sa chute, sa puissance, ses attributs, notamment au travers de ses titres qui nous ont montré les différentes facettes de ce personnage et aussi ses ruses. Et on a donné déjà deux messages au sujet des ruses de Satan face au monde et aux croyants. Aujourd'hui, nous allons regarder un aspect plus particulier, et au sujet des accès, des chemins d'accès que le croyant peut donner parfois à l'ennemi ou que le monde peut donner à l'ennemi. En fait, j'aimerais rappeler plusieurs choses. Tout d'abord, que dans ce combat spirituel, nous avions vu ensemble que Dieu nous appelle à veiller. Il y a sept passages, voilà, si tu veux bien... Petit problème technique, donc je vais faire signe et si vous voulez bien passer la diapo à chaque fois. Non, ça ne marche pas. Ok, On a vu ensemble que Dieu nous appelle à veiller, parce que le diable est comme lion rugissant. On trouve ça en 1 Pierre 5, versets 8 et 9. On a vu aussi que Dieu nous appelle à lui résister, résister au diable, et il fuira loin de vous. En Éphésiens 6, on a lu ici que Dieu nous appelle à tenir ferme contre les ruses du diable, à nous revêtir de toutes les armes de Dieu. En Apocalypse 12, verset 11, nous sommes le peuple de Dieu qui est vainqueur. Nous l'avons vécu à cause du sang de Christ et à cause de la parole. Et en Jean 2, verset 14, la Bible dit que nous avons vaincu le malin. Nous ne devons pas lui donner accès, en Éphésiens 4, 27, et on ne doit pas lui laisser avantage. En fait, je vous rappelle qu'en Colossiens, on a vu que Dieu nous a délivrés de la puissance des ténèbres. Et si vous vous souvenez, quand Paul s'est converti, Dieu a appelé Paul à exercer un ministère de réconciliation afin qu'il passe des ténèbres à la lumière de la puissance de Satan, celle de Dieu. C'est ce qu'on appelle la conversion. On ne peut pas être délivré du diable sans passer par la conversion, la nouvelle naissance. Il n'empêche pas moins que dans notre position en Christ et notre victoire en Christ, il existe pourtant, dans cette position de délivrance et de puissance, il existe pourtant des faiblesses chez le croyant, des chutes, parfois un manque de puissance dans la prière, dans le témoignage, ou même pour faire face à sa chair, au péché, même peut-être ayant un manque d'amour, de joie, de pureté. Et parfois, le croyant, anesthésié quelque part, dort spirituellement. C'est parce qu'il est dans un combat spirituel et qu'il a oublié de combattre ce bon combat avec les armes que Dieu lui a données. En fait, l'ennemi veut nous faire chuter pour nous paralyser dans notre volonté, dans notre intelligence, dans notre esprit, afin d'avoir de l'emprise sur nous. Lorsque les croyants ou une église est affaiblie ou sommeille ou est en chute, alors finalement, elle n'est plus aussi vivante que ce que Dieu voudrait et cesse de glorifier Dieu et d'aller chercher les âmes qui se perdent, ne réalisant plus les valeurs éternelles. C'est pour ça que Jésus-Christ nous a enseigné dans le Notre Père, « Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin. » Ainsi, dans la vie d'un chrétien, il peut y avoir un terrain qui est concédé à l'ennemi, un accès par lequel l'ennemi entre, une brèche par laquelle l'ennemi s'infiltre. Quelqu'un a dit « Le cœur de l'homme est comme un violon d'or sur lequel Dieu peut jouer ou Satan peut jouer. » Dans ce combat, le croyant peut devenir affaibli, incapable de porter du fruit, d'où l'importance de résister à l'ennemi, résister au diable, et il fuira loin de vous, et de ne pas lui donner accès. Il y a un passage en Éphésiens qu'on avait déjà regardé, et nous allons regarder les accès que le croyant ou le monde peut donner au diable. Il est écrit « Si vous vous mettez en colère, ne péchez point, que le soleil ne se couche pas sur votre colère et ne donnez pas accès au diable. » Est-ce qu'un croyant peut donner accès au diable? Oui, s'il ne veille pas à sa vie. Mais j'aimerais rappeler la merveilleuse promesse. Même si parfois il y a des brèches dans notre vie, j'aimerais vous donner une merveilleuse promesse qui est un encouragement pour nous tous. En Ésaïe 58, verset 12, il est écrit à propos de Dieu, « On t'appellera réparateur de brèches, celui qui restaure les chemins, qui rend le pays habitable. » Là même où l'ennemi a pris du terrain, Jésus et Dieu le Père veut réparer, colmater les brèches afin d'empêcher l'ennemi de continuer à faire une invasion ou à vouloir nous détruire. Et je pense à ce merveilleux passage où il est écrit en Luc chapitre 4 et verset 18, qui est l'annonce de la merveilleuse nouvelle qui est Jésus-Christ. Il est écrit en Luc 4, verset 18, je vous le lis. L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour envoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Et on sait que cette année de grâce, C'est l'âge de la grâce par la venue de Jésus-Christ que l'on trouve dans la Nouvelle Alliance. Jésus est venu libérer les captifs. Et on voit dans le Nouveau Testament les miracles de Jésus. Jésus a guéri les malades, Jésus a chassé les démons, Jésus a délivré les cœurs, Jésus a proclamé le salut par sa puissance et a jeté toute sa lumière sur un monde de ténèbres, notamment religieux, auquel il faisait face. Jésus est venu délivrer les captifs. Y a-t-il quelque chose dans notre vie qui aurait donné accès à l'ennemi? Alors, dans ce que nous allons essayer de voir ce matin, c'est les différentes possibilités de donner accès à l'ennemi. Je pense que nous n'aurons pas le temps de voir tout cela. Mais si vous regardez un peu plus loin, ok, un peu plus loin, vous avez ici, j'ai noté, selon les Écritures, une liste de portes qui pourraient s'ouvrir pour donner accès à l'ennemi. On a vu le principe ici, en Éphésiens chapitre 4, qu'on peut donner accès à l'ennemi lorsque la colère n'est pas réglée parmi les croyants ou dans un couple, ne pas se coucher sous sa colère. Ainsi, un premier chemin d'accès, c'est la colère. Un autre chemin d'accès que nous regarderons, c'est l'indécision. L'idolâtrie, la désobéissance, le manque de maîtrise, notamment face à la tentation dans le domaine de la sexualité, la pensée, l'occultisme, la convoitise de la chair, le mensonge, l'erreur, la blessure psychique et le manque de pardon. Cela n'est pas fait pour nous décourager, mais au contraire pour nous inciter à combattre l'ennemi et à lui résister. Alors nous allons regarder par rapport à tout cela un développement de ce thème, les accès que nous pourrions donner à l'ennemi avec un texte de base, un exemple biblique type, une conséquence de donner accès à l'ennemi et les recommandations du Seigneur, de sa parole, afin de ne pas pécher contre Dieu. Donc nous allons regarder ensemble tout d'abord un premier sentiment qui s'appelle la colère. Et nous allons regarder, comme déjà mentionné, Éphésiens chapitre 4 et versets 26 et 27, qui est le principe biblique ici, appliqué, n'est-ce pas, à la relation fraternelle. Si vous vous mettez en colère, ne péchez point. Dieu, on a déjà vu d'ailleurs une fois ici, le thème de la colère. Il y a une colère sainte. Dieu est parfois en colère. Il y a une colère sainte, mais qui, lorsqu'elle demeure, peut provoquer une colère malsaine et provoquer le péché. Et donc, quelque chose qui n'est pas réglé par la colère doit être purifié afin de ne pas donner accès au diable. Autrement dit, il peut y avoir un sentiment de colère, mais si ce sentiment continue, il y a la rancœur, il peut y avoir l'amertume, et puis il y a tout simplement une brèche ouverte à l'ennemi. Alors, si vous êtes de tempérament colérique, on dit qu'il y a plusieurs sortes de tempéraments, mais si vous êtes de tempérament dit colérique, alors vous devez veiller à ne pas donner accès au diable. L'exemple biblique ici, évidemment, ce sont les Éphésiens qui, parfois, pouvaient se mettre en colère et pécher et donner accès au diable. Et la conséquence, eh bien, c'est tout simplement de se laisser envahir par le diable. Alors, personne d'entre nous n'a envie d'ouvrir la porte au diable. Mais il n'empêche pas moins que par des attitudes intérieures, par des comportements, par des actions, des paroles, nous pourrions laisser l'ennemi envahir notre cœur. Peut-être lui entrouvrir la porte. Mais vous savez, le danger d'une porte entrouverte, il suffit juste de pousser un petit peu plus pour qu'elle s'ouvre entièrement. Il y a un danger, c'est de laisser des portes entrouvertes. Une porte qui est fermée, vous poussez, elle reste fermée. Mais une porte entrouverte, elle pourrait largement ouvrir. Alors, quelle est la recommandation du Seigneur face à la colère pour ne pas donner accès au diable? Eh bien, tout d'abord, il est écrit au verset 30 du chapitre 4 d'Éphésiens, « N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. » Ça ne vous est jamais arrivé de vous mettre en colère envers votre conjoint ou envers vos enfants ou peut-être même envers votre patron. Et puis, vous qui êtes croyant, vous sentez que ça ne va pas bien. Le Saint-Esprit est attristé parce que c'est un comportement qui ne plaît pas au Seigneur. Et la Bible dit, n'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu qui est la sonde dans nos cœurs pour voir si nous avons un bon comportement. Et lorsque nous l'attristons, c'est la preuve que nous n'avons pas un bon comportement. Et la Bible dit que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie et toute espèce de méchanceté disparaissent du milieu de vous. La colère de l'homme, dit la Bible, n'accomplit pas la justice de Dieu. Dans la colère, il y a un sentiment qui est finalement en dehors du plan de Dieu, de la volonté de Dieu, et qui finalement pousse au péché. Mais il y a toutes sortes d'autres sentiments qui peuvent donner accès à l'ennemi. Il y a la peur, il y a la crainte, il y a l'inquiétude, il y a l'angoisse. Il y a toute espèce de sentiments, lorsque les sentiments ne sont pas contrôlés par Dieu, qui peuvent devenir des accès à l'ennemi. Je me souviens, tout jeune croyant, je n'avais pas prévu de vous dire cela, mais c'est une anecdote personnelle pour illustrer cela. Tout jeune croyant, j'étais seul dans une maison dans la campagne et il y a eu un orage, mais terrible, et je sentais vraiment la présence de l'ennemi. Je n'ai pas du tout aimé cette nuit. Et alors, une autre fois, alors que j'étais seul, j'ai prié le Seigneur et tout d'un coup, la paix a envahi et la peur s'est enfuie pour laisser la place dans la plénitude de la foi à la présence de Jésus-Christ. Alors, Jésus-Christ chasse les mauvais sentiments. Jésus-Christ purifie la colère. Jésus-Christ purifie l'inquiétude. Jésus-Christ purifie l'anxiété, la peur, l'inquiétude. Mais nous devons apprendre à les lui remettre afin de ne pas être quelque part liés, anesthésiés par l'ennemi qui pourrait prendre ces mauvais sentiments et nous paralyser et nous bloquer. Concernant la colère, l'apôtre Paul dit notamment en Colossiens chapitre 3 verset 8, « Mais maintenant, renoncez à toutes ces choses, à la colère, à l'animosité, à la méchanceté, à la calomnie, aux paroles équivoques qui pourraient sortir de votre bouche. Renoncez à toutes ces choses, à la colère. » Dieu nous appelle à renoncer à nos mauvais sentiments. Je pense aussi à l'épître de Jacques, où Jacques nous dit, en nous avertissant à partir du verset 13, Jacques 3, verset 13 à 18, en parlant de la langue tout d'abord, il nous dit que la langue est un tout petit instrument comme un gouverneur de bateau, mais qui peut faire beaucoup de mal et détruire. Et c'est vrai que la langue peut être aussi un instrument que Satan utilise pour blesser et donner accès à l'ennemi. Mais Jacques résume à la fin de ce chapitre au sujet de la langue. Il dit « Lequel d'entre vous est sage et intelligent, qu'il montre ses œuvres par une bonne conduite avec la douceur de la sagesse. » La communion fraternelle, la communion avec Dieu ne doit pas être faite de colère, de peur, de crainte, d'inquiétude, d'anxiété, d'angoisse, mais tout simplement de douceur. Le fruit de l'esprit, c'est l'amour, c'est la paix, c'est la joie. Veillons à nous laisser toujours remplis du Saint-Esprit. Mais si vous avez dans votre cœur un zèle amer et un esprit de dispute, ne vous glorifiez pas et ne mentez pas contre la vérité. Cette sagesse n'est point celle qui vient d'en haut, mais elle est terrestre, charnelle, diabolique, car là où il y a un zèle amer et un esprit de dispute, il y a du désordre et toutes sortes de mauvaises actions. La sagesse d'en haut est premièrement pure, ensuite pacifique, modérée, conciliante, pleine de miséricorde et de bons fruits, exempte de duplicité et d'hypocrisie. Le fruit de la justice est semé dans la paix par ceux qui recherchent la paix. Et on voit que tous ces sentiments négatifs, entre autres que j'ai mentionnés, sont l'inverse de la paix que Dieu veut nous donner dans nos cœurs et la paix que Dieu veut nous donner entre nous. Alors, j'ai oublié de faire passer la diapo, mais voilà, il y a quelques versets qui montrent comment combattre ces mauvais sentiments. Un autre texte clé que nous trouvons en Jean 5, verset 12, puisque vous êtes tout proche, en Jacques, regardez avec moi Jean 5, verset 12. Un autre accès possible à l'ennemi se trouve donc en Jacques, au verset 12, où il est écrit « Avant toute chose, mes frères, ne jurez ni par le ciel, ni par la terre, ni par aucun autre serment, mais que votre oui soit oui, que votre non soit non, afin que vous ne tombiez pas sous le jugement. » Dans ce texte ici, on a le principe suivant, c'est qu'en fait, le croyant qui serait ni oui ni non, nui, je ne sais pas si ça vous convient, ni oui ni non, nui, peut donner un accès à l'ennemi parce qu'il n'est pas capable de se décider. L'indécision amène beaucoup d'angoisse chez le croyant. Le mot « angoisse » dans l'original a l'idée d'une étroitesse d'esprit, d'espace plutôt, pas d'esprit, excusez, étroitesse d'espace, un lieu limité, un impasse. Et le croyant, dans son indécision à prendre les bonnes décisions, peut-être par manque de maturité ou par incrédulité, peut donner accès à l'adversaire et tomber sous le jugement. L'ennemi veut nous troubler. Il y a parfois des gens qui basent leur décision sur les sentiments. Alors un jour, ils ont le sentiment que oui, il faut aller dans cette direction. Un autre jour, ils ont le sentiment qu'il faut aller dans cette direction. Ou alors d'autres croyants s'appuient sur leur raisonnement. Voilà, c'est tel, les paramètres sont là, donc, et voilà ma décision. Et peut-être que Dieu a autre chose à dire. Notre volonté doit se soumettre à la présence de Dieu. Et parfois, Dieu permet qu'il y ait une décision parce que justement, il n'y a pas conviction. Et la Bible dit que tout ce qui n'est pas le produit d'une conviction est péché. Péché, c'est rater la cible, c'est rater la volonté parfaite de Dieu, c'est rater ce que Dieu veut pour nous. Et parfois, dans l'indécision due à notre incrédulité, immaturité, eh bien, l'ennemi nous bombarde et finalement nous trouble dans nos sentiments, dans notre volonté, dans notre raisonnement, intelligence, afin de nous paralyser et de nous empêcher d'aller de l'avant. Avant toute chose, mes frères, ne jurez ni par le ciel, ni par la terre, ni par aucun autre serment. Parfois, Dieu montre sa volonté de façon très claire par les Écritures. On n'a pas besoin d'aller plus loin que les Écritures. Un mariage avec un inconverti, est-ce que c'est permis dans la Bible? Non. Il y a des choses, est-ce que Dieu permet l'adultère? Non. Est-ce que Dieu permet le vol? Non. Et ainsi de suite. Il y a beaucoup de choses qui sont écrites dans la parole où on n'a pas besoin de chercher la volonté de Dieu parce qu'en majorité, en grand pourcentage, la volonté de Dieu est déjà inscrite dans ce livre. Mais dans des circonstances particulières où des décisions doivent être prises, on a besoin du conseil des sages. La Bible dit que la sagesse est dans le grand nombre de conseillers. On a besoin de regarder peut-être aux circonstances, de prendre plus de temps de prier, de se faire conseiller ou enseigner. Mais Dieu ne veut pas qu'on reste dans l'indécision. Et même si on doit prendre une décision, on n'a pas une pleine conviction, on peut toujours croire par la foi, Seigneur, ça ne me semble pas péché dans cette direction, mais si je me trompe, montre-le-moi, mais je dois prendre une décision. Bon, une autre anecdote, excusez, je parle un petit peu de moi, ce n'était pas vraiment prévu, mais pour vous montrer qu'on est humain. Vivant à Québec depuis des années, je pense quelque part, j'avais un certain choc culturel. Vous savez, il fait 8 mois d'hiver, c'est froid, et moins 40 en février. Et je voyais mon père vieillir en France, ma famille éloignée du Seigneur, et j'étais partagé quelque part entre rester à Québec, où on vivait un temps de réveil, de bénédiction, des portes grandes ouvertes, et puis la France, qui est mon pays, etc. Alors, il y a eu une période, je dois confesser, d'indécision, jusqu'à ce que Dieu me pousse finalement à quitter le Québec, afin de ne pas geler toute ma vie là-bas. Mais c'était une période difficile pour moi. Et je crois que nous devons apprendre à prendre les bonnes décisions au bon moment. Parfois, nous retardons des décisions ou parfois nous nous précipitons dans des décisions. Nous devons juste apprendre à être dans la paix de Dieu. Et Dieu veut nous donner une paix merveilleuse qui dépasse toute intelligence, toute connaissance, et une confiance en lui. Et finalement, l'indécision, souvent, c'est un manque de confiance. Je ne sais pas si dans votre vie, vous avez eu à faire face à des décisions où vous étiez partagé, parfois à raison, hein. Il y a des des décisions qui ne sont pas toujours faciles à prendre, mais reconnaissons que même malgré tout cela, Dieu veut nous donner une paix qui surpasse toute intelligence. Alors la recommandation que les Écritures notamment veulent nous donner, il y en aurait plusieurs, mais je pense en Romains 12, qui est un passage très connu, qui résume bien un petit peu notre façon avec laquelle on devrait se conformer à Dieu. Il est écrit au verset Dieu, « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés. » Le mot grec ici, « métamorphosé », donc c'est vraiment un changement radical, « par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. » Ce qui est bon, contraire au malin, agréable et parfait, même si parfois ce n'est pas si agréable pour nous, mais ça doit être parfait pour Dieu. Il y a parfois des choses que Dieu nous demande qui ne sont pas si agréables au départ, mais qui deviennent une réelle source de bénédiction dans notre vie. En fait, Dieu veut qu'on se consacre à lui. Reconnaissons que parfois notre manque de décision ou de bonne décision, c'est parce que nous ne savons pas discerner la volonté de Dieu. Le chrétien mûr, par la grâce de Dieu, est appelé à discerner la volonté de Dieu essentiellement par la connaissance des Écritures. Plus il connaît les Écritures, plus il a la pensée de Dieu en lui et cherche à l'appliquer dans sa vie et à prendre les bonnes décisions. Personnellement, je ne sais pas où vous en êtes, peut-être quelqu'un ici ce matin a une décision à prendre ou calcule le dans la balance des pour et des contre, des fois c'est un peu notre raisonnement, n'est-ce pas? Mais j'aimerais vous donner un psaume qui a été un puissant encouragement dans ma vie, au travers des décisions importantes, se trouve le psaume 25. Si vous voulez tourner dans vos Bibles, dans le psaume 25. C'est un psaume qui m'a énormément encouragé dans ma vie, et j'espère qu'il peut être ce matin aussi, ou qui peut-être a déjà été une bénédiction pour vous, et qui peut l'être en tout cas. Éternel, psaume 25, verset 4, « Fais-moi connaître tes voies, enseigne-moi tes sentiers. Conduis-moi dans ta vérité et instruis-moi, car tu es le Dieu de mon salut, tu es toujours mon espérance. » Verset 9, « Il conduit les humbles dans la justice, il enseigne aux humbles sa voie. Tous les sentiers de l'Éternel sont miséricorde et fidélité pour ceux qui gardent son alliance et ses commandements. » Verset 12, « Quel est l'homme qui craint l'Éternel ? L'Éternel lui montre la voie qu'il doit choisir. » En étant attaché au Seigneur, en restant attaché vers lui, alors le Seigneur nous donne la grâce de comprendre par la foi le chemin à venir. Un autre accès qu'on peut donner à l'ennemi, c'est l'amour de l'argent. L'amour de l'argent. Alors peut-être vous allez sourire de l'illustration que j'ai choisie ici, qui est très connu, n'est-ce pas, l'oncle Picsou, qui est un super radin avare de ses sous constamment, mais qui en est vraiment esclave et qui vit et qui se baigne dans la montagne de son argent, n'est-ce pas? Bon, c'est présenté avec un peu d'humour, mais regardez ce que dit la Bible. Savez-vous que la Bible condamne l'amour de l'argent, la cupidité, et même la Bible dit que la cupidité, c'est une idolâtrie. L'idolâtrie, finalement, de l'argent. Alors, chapitre 3, verset 5, il est écrit « Faites donc mourir ce qui dans vos membres est terrestre, la débauche, toute relation sexuelle en dehors des liens du mariage, l'impureté, les passions, les mauvais désirs et la cupidité qui est une idolâtrie. » Un jour, j'avais un frère un peu attaché à l'argent. C'était au Canada. Donc, vous ne vous sentez pas visé, d'accord ? Et j'ai dit, écoute, il me semble que ta vie est un peu trop attachée, puisqu'on parlait assez ouvertement, aux choses matérielles. Et je ne vais pas entrer dans les détails, peu importe. Un peu trop attachée aux choses matérielles. Et tu es toujours en train de calculer, parler d'argent. On va dire, ah bon, je dis, oui, mais tu sais, la Bible dit que la cupidité, c'est une idolâtrie. Mais non, non, non. J'ai dit, oui, c'est dans la Bible. Et on a tourné en Colossiens 3, verset 5, « La cupidité est une idolâtrie. » Autrement dit, c'est quand l'argent prend la place de Dieu. Nous sommes tous faits avec des cœurs qui ont besoin d'adorer, des cœurs qui ont besoin d'avoir Dieu. Saint Augustin disait, repris par Pascal, le cœur a un vide en forme de Dieu. Et tant que ce cœur n'est pas rempli de Dieu, il n'est pas à la bonne place. Qu'est-ce que nous avons le plus à cœur ? Dieu. On peut facilement idolâtrer beaucoup de choses. On peut idolâtrer des choses, une voiture. On peut idolâtrer des personnes, un conjoint, des enfants, le pape. On peut idolâtrer des saints. On peut idolâtrer des stars de la chanson, des stars du sport. On peut faire d'un sport une passion qui prend le dessus sur notre attachement au Seigneur Jésus-Christ. En fait, toute brèche où l'ennemi peut avoir de l'emprise sur nous parce qu'on ne se consacre pas entièrement à Dieu, devient un espace dans lequel l'ennemi veut prendre de la place. C'est terrible cela. Et quand on regarde en Israël à la conquête de Canaan, on voit que lorsqu'ils manquaient de foi, ils étaient assaillis par leurs ennemis, alors que Dieu leur donnait toute la puissance pour combattre leurs ennemis. On voit vraiment que subtilement, Satan a essayé par tous les moyens de rendre le peuple d'Israël idolâtre. Jusqu'à ce que Dieu dit à un moment donné, vous prenez un morceau de bois, vous en coupez la moitié pour vous chauffer, ce qui est légitime, n'est-ce pas ? Un morceau de bois, on peut en faire une planche, une poutre, une bûche dans la cheminée, mais l'autre partie, vous le prenez et vous en sculptez une idole que vous adorez. Voyez la folie de l'homme. Mais si on regarde autour de nous, l'idolâtrie est très subtile. Alors on va regarder un premier exemple biblique qui est Judas. Qu'est-ce qu'a fait Judas en Luc 22, verset 3 ? Il est allé vendre Jésus pour 30 pièces d'argent. Il avait l'amour de l'argent. Malgré qu'il a passé 3 ans avec le Seigneur Jésus, qu'il a vu Jésus guérir, Jésus chasser des démons, Jésus enseignait avec une telle autorité, il a été imprégné lui-même et parti avec les disciples sous l'onction de Dieu, accomplir des miracles. Il a vu Jésus prophétiser sa mort, sa résurrection, son second retour. Et malgré cela, la Bible dit qu'à un moment donné, il a laissé Satan entrer dans son cœur. Pourquoi ? Par l'amour de l'argent. Peut-être déçu que peut-être Jésus crucifié ou Jésus pris, un peu dans la perspective que Jésus mentionnait, il ne serait plus celui qui serait à la droite de Jésus pour régner sur Israël. On ne comprend pas le processus, ce n'est pas écrit, mais il n'empêche pas moins que Judas a laissé la porte entrouverte et finement il est allé vendre le Fils de Dieu pour 30 pièces d'argent. L'amour de l'argent. En Actes chapitre 5, Ananias et Saphira, dans un temps de réveil extraordinaire, où l'église primitive, les frères et sœurs de l'église primitive mettaient tout en commun et personne ne disait que quelque chose lui appartenait, si ce n'est de pouvoir pourvoir aux besoins de tous les saints, notamment des pauvres. Et dans cet esprit de don, où les gens apportaient aux pieds des apôtres avec un réel esprit de cœur donné au Seigneur, et donc de donner aux autres. Il y a un couple qui a triché, qui a vendu un terrain et qui a dit, voilà tout le terrain, le prix du terrain que nous avons vendu, nous le donnons. Savez-vous quoi ? Ce genre de mensonge existe aussi chez les croyants. Et quelqu'un a dit, peut-être qu'il n'y aurait plus personne dans les églises si Dieu jugeait aussi fortement ses enfants d'aujourd'hui qu'il a fait avec Ananias et Saphira. C'était certainement un jugement exemplaire. Mais Dieu n'a pas permis que le mensonge entre dans l'église primitive dans un temps de réveil. Parce que ce qu'ils ont dit était faux. Ils avaient toute liberté de ne pas vendre leur terrain, toute liberté de garder l'argent pour eux-mêmes, toute liberté d'en prendre une partie, de dire on n'en donne qu'une partie. Mais ils ont menti parce qu'ils ont dit voilà, on a vendu, on donne tout ce que ça a rapporté. C'était un mensonge. Et Dieu n'a pas permis que cet esprit de mensonge entre dans l'église primitive parce que ça aurait été une brèche dans toute l'intégrité de la vie de l'église primitive. Quel châtiment exemplaire. Et vous souvenez aussi à Acan en Josué chapitre 7 verset 1 qui lui est allé prendre ce qui était dévoué par interdit par convoitise des yeux, par cupidité, il est allé chercher des choses, n'est-ce pas ? Et finalement, le jugement sur lui a été terrible. Et le jeune homme riche en Matthieu 19, il est parti tout triste, nous est dit, après avoir rencontré Jésus, parce qu'il avait de grands biens. Et Jésus a dit, il est difficile, il est impossible pour des riches d'entrer dans le royaume de Dieu. Oui, c'est impossible si on préfère ses richesses, si on met ses biens, ses richesses en premier dans son cœur, à la place de la rencontre et de la communion avec Jésus-Christ. On ne peut pas mélanger cela. Et en 1 Corinthiens, chapitre 10 et verset 7, il y a un avertissement terrible pour les enfants de Dieu. Il est écrit « Ne devenez point idolâtres comme quelques-uns d'entre eux. Selon qu'il est écrit, le peuple s'assit pour manger et pour boire, puis ils se levèrent pour se divertir. » La convoitise des yeux mélangée à la convoitise de la chair a provoqué l'idolâtrie et même, je dirais, un divertissement qui a semblé idolâtre à Dieu puisque c'est mentionné dans ce texte. Et maintenant, parlons de Nebuchadnezzar. Alors, je pense que la liste dans l'Ancien Testament peut s'allonger. Vous vous souvenez, Nebuchadnezzar a fait un rêve, mais il n'était pas capable de l'interpréter. Et Daniel l'a interprété. Alors, il y avait la tête d'or, le buste d'airain, les jambes de fer et les pieds d'argile. Et voilà, lui, Nebuchadnezzar, roi de Babylone, qu'est-ce qu'il fait ? Il se fait une immense statue qui lui ressemble, évidemment. Et après l'interprétation de Daniel, au lieu de comprendre que c'est des royaumes qui se succèdent, voilà, il fait une seule et même statue de même matériau. Il dit, voilà, c'est moi, adorez-moi. Et tout le peuple devait s'adorer, sinon on les égouillait. Carrément, les gens qui ne devenaient pas idolâtres, ben, on les amenait au feu. Et les frères, les amis de Daniel en ont goûté un petit peu, vous vous souvenez ? C'est ça. Nebuchadnezzar, un jour, et on va parler des conséquences, Dieu l'a jugé profondément. Qu'est-ce qui est arrivé en Daniel 4 ? Tournez avec moi, Daniel chapitre 4. Par son idolâtrie provoquée, par son orgueil surtout. Alors, Ézéchiel, Daniel, si vous cherchez comme moi. Daniel chapitre 4, on va remonter les conséquences justement de laisser l'idolâtrie prendre le dessus dans nos cœurs, notamment l'amour de l'argent. Alors, en Daniel chapitre 4, on a parlé de Nebuchadnezzar, allons-y. Daniel chapitre 4 et verset 30. Le roi prit la parole et dit, « N'est-ce pas ici, Babylone la Grande, que j'ai bâtie comme résidence royale par la puissance de ma force et pour la gloire de ma magnificence ?» La parole était encore dans la bouche du roi qu'une voix descendue du ciel apprend au roi Nebuchadnezzar qu'on va t'enlever le royaume. On te chassera du milieu des hommes. Tu auras ta demeure avec les bêtes des champs. On te donnera comme aux bœufs de l'herbe à manger. Et 7 ans passeront sur toi jusqu'à ce que tu saches que le Très-Haut domine sur le règne des hommes et qu'il le donne à qui il lui plaît. C'est pas le premier dictateur qui a été jugé par Dieu, n'est-ce pas ? Mais il y a des dictateurs qui font de leur personne une idole, Hitler par exemple, et qui amènent des peuples à l'idolâtrie ou des idolâtries d'idéologie meurtrières. Hitler a fait tuer des millions et des millions de gens, 6 millions de juifs, 60 millions la Deuxième Guerre mondiale. Vous vous rendez compte ? Et des gens l'ont suivi, l'ont idolâtré et ont fait le signe comme une adoration envers un homme. Une consécration à un homme, l'idolâtrie. Et Dieu a brisé les Nebuchadnezzar à cause de son orgueil et l'a rendu herbivore, perdant la raison. Parce que Dieu juge l'orgueil et cette forme égocentrique d'idolâtrie. Josué, chapitre 7, versets 9 à 10, lorsque on parle maintenant d'Acan, si vous voulez bien tourner en Josué. Josué, chapitre 7. Josué, chapitre 7, versets 9 et 10. Un Non, ce n'est pas la bonne référence, je pense. Hein? Vas-y, tu peux mettre le verset. Jésus, chapitre 7. Alors, non, je suis en train de voir le jugement d'Acan, si vous le trouvez avant moi, merci. Oui, c'est 20, voilà. Acan répondit à Josué, « Il est vrai que j'ai péché contre l'Éternel, le Dieu d'Israël, et voici ce que j'ai fait. J'ai vu dans le butin un beau manteau de chinéar, 200 sicles d'argent et un lingot d'or du poids de 50 sicles. » Aïe, ça valait la peine quand même. Hein? « Je les ai convoités et je les ai pris. Ils sont cachés dans la terre au milieu de ma tente et l'argent est dessous. » Vous voyez, il y a eu plusieurs péchés. Il a convoité par amour de posséder quelque chose que Dieu ne lui donnait pas, c'est ça la convoitise de la chair, c'est de vouloir posséder quelque chose que Dieu ne donne pas, mais c'était lié à l'amour de l'argent, à l'idée de posséder. Et finalement, il a caché, il a menti, mais là, devant le poids, n'est-ce pas, de sa culpabilité et la colère de Dieu qui s'est enflammée, finalement, Dieu l'a jugé. Et verset 25, Josué dit, « Pourquoi nous as-tu troublés ? L'Éternel te troublera aujourd'hui et tout Israël le lapida. » On les brûla au feu et on les lapida. Châtiment exemplaire dans l'Ancien Testament. C'est ce qu'on appelle le principe du châtiment exemplaire. Maintenant, regardez avec moi Actes chapitre 5 à propos d'Ananias et Saphira. Actes chapitre 5. Et je pense que verset 5, Ananias, entendant ces paroles, tomba et expira. Une grande crainte saisit tous les auditeurs. Imaginez. Aujourd'hui, il y aurait toute une enquête de police. Comment il est mort? Et puis, un peu plus loin, il est écrit, verset 10, au même instant, sa femme a menti comme lui. Elle tomba, et il est écrit qu'ils ont menti au Saint-Esprit. Elle tomba aux pieds de l'apôtre et expira. Les jeunes gens étant entrés, la trouvèrent morte, ils l'emportèrent et l'ensevelirent auprès de son mari. Une grande crainte s'empara de toute l'assemblée et tous ceux qui apprirent ces choses. Et pour terminer, j'aimerais qu'on puisse regarder Matthieu 26, 24. Matthieu 26, verset 24. Il est écrit, le Fils de l'homme s'en va selon qu'il est écrit de lui, mais malheur à l'homme par qui le Fils de l'homme est livré, mieux vaudrait pour cet homme qu'il ne soit pas né. C'est terrible cela. En fait, nous pouvons donner des brèches, des accès à l'ennemi. On en a vu au moins trois ce matin. La colère ou des mauvais sentiments qui ne sont pas remis au Seigneur pour être abandonnés. L'indécision par manque manque de maturité, peut-être de manque de foi, donc incrédulité. Et puis finalement, l'amour de l'argent, qui est une idolâtrie. En fait, tout ce qui prend la place de Dieu dans nos vies. Alors cela nous amène à un choix à faire, bien-aimés. C'est de veiller sur nos âmes, de veiller sur nos vies. Nous avons un ennemi, c'est vrai que nous vivons dans la grâce et Jésus est venu délivrer les captifs. Et merci Seigneur que lorsque nous nous laissons accrocher par l'hameçon du diable, Dieu est prêt à nous en retirer et nous pouvons ne pas nous accuser les uns les autres, mais tout simplement remercier le Seigneur Jésus qui est fidèle et juste pour pardonner tout péché, tout accès qu'on a pu donner au Seigneur, au diable. Le Seigneur est prêt à colmater la brèche parce que l'Éternel est appelé le réparateur de brèches. Alors veillons à ne pas donner accès à l'ennemi, soit par l'indécision, un mauvais sentiment, la colère, l'idolâtrie dans nos vies. Prions s'il vous plaît. Notre Père Céleste, nous te remercions ce matin de ta bonté, de ta fidélité, à nous redresser lorsque nous tombons. Merci Seigneur de ce que tu prends soin de nous et merci de ce que tu veux, de ce que tu allumes des alarmes dans nos vies lorsque nous donnons accès à l'ennemi. Le Saint-Esprit est attristé en nous et nous nous sentons malheureux, nous voulons revenir vers toi. Garde nos cœurs et nos pensées en toi Seigneur et fais de nous tes disciples, car nous consacrons nos vies. Et ce matin, si il y avait quelqu'un qui désire consacrer sa vie au Seigneur Jésus dans son cœur, alors à sa place, qu'il le dise au Seigneur, qu'il dise, Seigneur, je te donne ma vie, prends-la. Je te consacre ma vie. Je te donne mon corps comme un sacrifice vivant et agréable, au nom de Christ. Amen. Bon dimanche, et je crois qu'on va... Est-ce qu'on a le temps de chanter?